Tout un monde,
Marie-Hélène Freissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, aujourd'hui en direct du Salon Livre Paris, où j'ai le plaisir d'accueillir le philosophe sinologue François Julien autour de son dernier ouvrage paru « Vivre en existant, une nouvelle éthique » et dans le prolongement de ses travaux bien connus qui se situent dans ce qu'il appelle l'écart entre la Chine et l'Europe. Bonjour François Julien.
Bonsoir.
Merci d'accepter cet exercice d'être avec nous en public dans ce brouhaha. Vous êtes un homme d'études, de réflexion. Vous consacrez beaucoup de votre temps à ce que vous appelez votre chantier, un chantier dont les outils sont l'analyse, la réflexion, l'écriture finement ciselée, qui est votre marque. Un chantier qui œuvre entre deux univers, celui de l'extrême-Asie, en particulier la Chine. Vous êtes sinologue, vous parlez, vous lisez, vous écrivez le chinois. Et à l'autre extrême, l'Europe, héritière de la pensée grecque. Ce chantier a produit de nombreux ouvrages, dont certains, comme le dernier qui est paru il y a tout juste 2 jours et qui s'appelle « Vivre en existant ». Certains se présentent comme des préceptes de vie, ou au moins des voies à suivre pour réfléchir, pour éventuellement adopter d'autres comportements, afin d'y intégrer en quelque sorte autre chose, peut-être ce quelque chose qui nous manquerait de ce côté-ci du continent eurasiatique, afin que nous puissions inventer une pensée, un rapport au monde et à la vie en quelque sorte augmenté, avec toutefois un rejet agacé souvent de toutes les techniques de bien-être, ce marché qui vient lui aussi de l'Asie. François Julien, nous ne sommes pas dans ce registre-là aujourd'hui.
Non, nous sommes dans le registre de la philosophie, pas du prêche. La philosophie ne prêche pas. Donc il s'agit pour moi, effectivement, ayant longtemps voyagé entre l'Europe et la Chine, ayant donc cherché à développer un antre de ces pensées, à partir de l'écart que constitue l'ailleurs des deux cultures, essayer d'élaborer une philosophie du vivre, ou plus précisément de l'exister. Mais qui dit philosophie dit concept, qui dit philosophie dit question, et non pas ce qui est cette sorte de marché, de marketing en fait, n'est-ce pas, du bonheur et toutes les niaiseries qui vont avec.
Alors, tout de même, chemin faisant, on va en parler tout à l'heure, vous êtes parti d'ouvrages plus purement philosophiques ou concernant la pensée chinoise pour aller vers des petits ouvrages, je pense aux transformations silencieuses, qui ne sont pas des manuels de vie, mais qui sont quand même des compagnons de route.
S'ils sont des compagnons d'autres pour d'autres, très bien. Mon problème, si vous voulez, plutôt le chantier dans lequel je suis, c'est d'essayer d'organiser un champ conceptuel en tirant parti des ressources culturelles qui sont les miennes. Dans le voyage, l'itinéraire qui était le mien, je suis philosophe, donc je viens des Grecs, mais j'ai fait le choix de sortir du cadre européen pour aller voir ailleurs. Il ne faut pas oublier que théorie en grec signifie aller voir ailleurs. Comme les missions, les ambassades autrefois allaient ailleurs, dans d'autres villes, pour voir comment c'est ailleurs. Donc j'ai fait ce choix de quitter la pensée grecque, non pas du tout par désintérêt pour elle, au contraire, pour la redécouvrir de dehors, dans sa singularité, dans son inventivité. Et j'ai choisi la Chine parce que la Chine est un ailleurs marqué par rapport à l'Europe, ailleurs par la langue, ailleurs par l'histoire, bref. Il y a là donc des ressources de pensée diverses Et je crois que c'est la chance d'autre monde que de pouvoir circuler ainsi entre des cultures diverses, mais avec un enjeu qui est celui de la philosophie, donc du questionnement, donc de l'élaboration de concepts. Et c'est pour ça que progressivement, effectivement, j'ai détaché de ce chantier des questions qui sont des questions de vivre, dont des enjeux qui sont des enjeux, je crois, beaucoup plus généraux que ceux qui relèveraient d'une culture ou d'une autre.
À partir de quel moment la Chine vous a attiré? Parce qu'il y avait d'autres voies.
Elle ne m'a pas attiré. Je me suis intéressé à la Chine par stratégie philosophique, pas par séduction. Parce que j'aime la Chine, pour moi, n'est pas une question. Ce qui m'importe, c'est l'extériorité qu'elle constitue par rapport à la pensée européenne et donc le dérangement qu'elle produit dans notre pensée. Puisqu'on sort, disons, de ce qui a été l'histoire de la philosophie européenne quand on passe en Chine, on sort aussi de ce qui a été la grande langue européenne, indo-européenne. Donc il y a un effet d'ailleurs, un effet donc de dépaysement, un effet de dénudement. Et c'est ça qui me paraît philosophique. Ça qui me paraît, si vous voulez, relancer la philosophie dans son questionnement et de façon peut-être plus radicale que du sein même de l'histoire de la philosophie, qui bien sûr tend à ranger.
En direct du salon Livre Paris, nous sommes en compagnie du philosophe, sinologue François Julien. François Julien, vous avez commencé à parler de cette extériorité de la Chine. Il y a des mots que vous n'aimez pas. Par exemple, si on vous dit que vous comparez, ce n'est pas du comparatisme. Vous n'aimez pas, vous n'aimez pas du tout ce terme.
Ce n'est pas que je n'aime pas, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce que comparer, ça signifie quoi? Ça signifie ranger en vis-à-vis en appréciant les ressemblances ou différences. Ce n'est pas ce que je fais. Puisque je pense que la culture ne se laisse pas ranger ainsi. C'est pour ça que je récuse le concept de différence ou de ressemblance, qui tend à ranger, qui cherche à identifier ce qui serait les caractéristiques d'une culture. Or, le propre d'une culture, c'est de muter. Donc, c'est de se transformer. Donc, il ne s'agit pas pour moi de penser en termes de ressemblance ou de différence, en mettant en vis-à-vis l'un et l'autre. Il s'agit de repérer ce qu'il peut y avoir d'écart entre elles, de façon à mettre en regard, en vis-à-vis, les ressources respectives. Pourquoi je dis écart? Parce que, à différence de la différence, l'écart met en tension ce qu'il a séparé. La différence distingue, l'écart, lui, sépare. Donc, relève une distance, mais cette distance est une distance qui met en tension.
Donc dynamique.
Oui, parce que la différence laisse chacun de son côté. Alors que l'écart, justement, dans le vis-à-vis qu'il ouvre, dans l'antre ouvert par l'écart, dans cette distance apparue, eh bien, il y a mise en tension et donc travail de l'un par l'autre. L'écart tient en vis-à-vis, tient en regard. Et c'est dans ce regard, dans cet écart mettant en regard, qu'il y a donc possibilité de travailler. Et c'est ce travail entre pensée chinoise et européenne qui m'intéresse. Il faut bien comprendre que l'écart, c'est le contraire de gap. Quand on traduit écart en anglais, c'est gap. Or, c'est le contraire.
Parce que
le
gap, c'est la séparation.
C'est fossé. Séparation. Ouais. Alors que l'écart, au contraire, par la distance ouverte, fait apparaître de l'antre un antre opérant, un antre du vis-à-vis de la mise en tension, donc permettant, au travers des écarts, de produire du commun. Et c'est ce commun du vivre qui m'intéresse, au travers des écarts de la pensée chinoise et de l'européenne.
Alors, dans Vivre en existant, une nouvelle éthique, donc votre dernier ouvrage, vous revenez sur ce que peut apporter à un lecteur européen, par exemple, la lecture du Tao Te Ching, la lecture de Chuang Tzu. Cette vraiment radicalement autre manière d'exister ou de vivre, de penser le monde. Mais c'est aussi une leçon de vie, là encore, puisqu'il s'agit de d'aborder plutôt le flux que la causalité ou que l'événementiel. Et c'est aux antipodes de notre manière de penser.
Oui, mais en disant aux antipodes, on reste dans la comparaison. Et c'est ce dont je me méfie. Il ne s'agit pas encore une fois de ranger en regard ou en vis-à-vis, il s'agit d'explorer des ressources. Pour moi, la diversité des cultures, c'est comme autant de ressources. Et la chance de notre époque, c'est de pouvoir circuler entre ces deux sources, ces ressources. Ressources, c'est-à-dire ce qui est à explorer, à exploiter comme ressource de pensée. Et si une pensée est un tant soit peu développée, effectivement, elle conduit à vivre. Donc, de la pensée à la vie, il y a bien sûr enchaînement. Mais si vous voulez, dans ce dispositif dans lequel je me suis mis pour philosopher, il s'agit d'essayer de tirer parti de ces ressources aussi bien grecques, européennes que chinoises, donc sans se raidir dans une sorte d'opposition. C'est pas en noir et blanc. C'est pas, si vous voulez, la Chine comme ci et l'Europe comme ça. Il s'agit au contraire de fluctuer entre les deux et dans l'antre ouvert par ces pensées, de trouver comment en tirer parti pour penser à nouveau frais, pour remettre la raison en chantier. C'est ce qui est l'enjeu de mon travail.
Est-ce que vous avez en Chine des amis, des collègues philosophes qui sont dans le même processus que vous et qui dialoguent avec vous à travers le même protocole ?
On m'a souvent posé la question, pour une fois c'est simple, non. Non, parce que Chinois qui aient fait ce trajet inverse, qui serait de passer par le grec, le latin, pour réinterroger la pensée chinoise, je n'en connais pas. En tout cas, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Mais sans doute, tout ça va changer d'ailleurs. Mais disons, le moment des cultures n'est pas le même entre la Chine et l'Europe. Et je crois que du côté chinois, il y a plutôt l'idée de s'occidentaliser ou de, disons, d'entrer dans le champ réflexif construit par la philosophie européenne, et non pas cet aller-retour qui est dans la logique de mon travail. Aller-retour, ce qui signifie que je passe en Chine dans un détour qui est en même temps un retour. C'est pas un détour pour lui-même, c'est un détour qui a en vue de revenir à sa pensée européenne pour l'interroger dans ce qu'elle n'interroge pas. C'est-à-dire pour interroger nos évidences, c'est-à-dire les partis pris enfouis de notre pensée, c'est-à-dire notre impensée. Je passe en Chine pour essayer d'avoir une prise oblique en retour sur l'impensée de notre pensée. L'impensée, c'est ce à partir de quoi nous pensons et que par là même nous ne pensons pas. Donc il s'agit pour moi de faire apparaître l'impensée de notre pensée pour remettre la raison en chantier.
Alors il y a dans le contact avec la Chine et dans ce que vous nous en dites, dans vivre en existant, pour nous, un certain nombre d'éléments, nous qui ne lisons pas le chinois, qui n'avons pas accès au texte directement, beaucoup de choses très stimulantes, notamment cet accent qui est mis sur la transition dans la pensée chinoise, alors que chez nous, l'accent est toujours mis où ? Sur les causes et les enchaînements, ou sur, et ça c'est l'approche de l'histoire par exemple, c'est une série d'événements. Alors que la pensée chinoise voit le flux, la continuité, et ce qui est en train de s'effacer et ce qui est en train d'apparaître dans une sorte de fondu enchaîné.
Oui, je vois que la pensée de la transition est difficile en Europe. Parce que la transition nous met dans une indistinction, dans un flou, dans un vague. Or, le choix de la pensée grecque, c'est de penser le distinct. Et donc, de couper, comme dit Platon, temnein, de couper pour justement pouvoir penser ce qui est début et ce qui est fin, et donc tenir des segments éclairables de part en part, parce que par le discours, par le logos, par la raison. Donc, la transition nous met dans une difficulté qui est l'entre-deux, qui est que ce n'est ni l'un ni l'autre, donc ce n'est caractérisable ni d'une façon ni de l'autre. C'est donc incaractérisable, le flou, le vague. Et effectivement, c'est ainsi que le Tao est caractérisé par sa non-caractérisation, son caractère essentiellement flou, vague, indistinct, qui sont ses prédicats premiers. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est difficile à penser du côté européen et que nous avons effectivement accentué, la rupture, donc ce qui a début et fin. Par exemple, dans la conduite, l'action qui a un début et une fin, avec la question que pose le début de l'action, qui est mon choix, ma liberté, comment je m'engage dans cet acte, etc. Alors que la pensée chinoise pense davantage en termes de flux, c'est-à-dire de processus, de processualité, de capacité à se renouveler par modification continue, ce qui est figuré en Chine par la figure du ciel. Le ciel qui ne cesse de passer par l'alternance du jour et de la nuit, l'alternance de la saison, et qui par là même ne cesse de se renouveler. Donc la pensée de la régulation permettant le renouvellement des choses est une pensée effectivement privilégiée du côté chinois.
Alors vous introduisez tout de même comme complice dans votre démarche Montaigne et Rousseau par exemple. Donc à l'intérieur de la pensée occidentale, il y a eu tout de même, alors ils n'ont pas été influencés directement par la Chine, mais ils ont tendu vers des approches qui sont assez similaires à celles de la pensée chinoise. Quand je danse, dit Montaigne.
Oui.
Il est dans l'événement, il est dans l'instant.
Je ne sais pas si elles sont similaires, parce que je reviendrai dans cette notion de différence ou de ressemblance dont j'essaie de m'écarter. Mais il est évident que la philosophie est diverse en Europe, et qu'il y a notamment tout ce qui ne se range pas sous, disons, la tradition principale et aussi fortement conceptuelle qui a prévalu. Et donc, il y a effectivement, en marge de la philosophie des penseurs, que ce soit Montaigne, Rousseau, davantage, en rapport avec l'expérience. En tout cas, essayer de ne pas se séparer de l'expérience parce qu'il serait l'écran du concept. Donc, c'est vrai de tous ces penseurs-là. Et je crois qu'au fond, il faut encore une fois puiser à toutes les ressources, y compris à la ressource de la philosophie la plus, disciplinaire, y compris à ce qui est l'histoire même de la philosophie. Donc il ne s'agit pas pour moi, si vous voulez, de chercher du côté de la sagesse. Je reste grec, c'est-à-dire je reste dans cette optique selon laquelle penser sert à vivre, penser c'est-à-dire élaborer abstraitement, n'est-ce pas, permet justement ensuite d'avoir prise sur l'existence. Donc, si vous voulez, là, il y a un choix qui est décisif et qui, justement, m'écarte de tout ce qui se range sous le titre de développement personnel ou tout le reste, n'est-ce pas ? Parce que je crois que l'abstraction, la capacité de conceptualiser est elle-même éclairante par rapport à la vie. Parce que je suis philosophe et non pas sur le marché de la sagesse ou de la joie ou du bonheur, de tout ce qui envahit aujourd'hui les rayons des librairies.
Alors, par une approche de la langue chinoise, on comprend que, quelque part, les dés sont jetés. Alors, est-ce que c'est la langue qui génère la pensée ou la pensée qui génère la langue ? Ben, les deux, mon colonel. Mais vous nous dites, par exemple, c'est une langue sans sujet, sans verbe, où le verbe être n'est...
Non, là, je crois qu'il ne faut pas simplifier. C'est une langue.
Oui.
Donc une langue, elle communique comme une langue. Moi, je considère les langues comme des ressources. Alors vous me dites, est-ce que c'est la langue qui détermine la pensée ? Non. Mais la pensée exploite la langue. Elle l'exploite. C'est donc pas un déterminisme. C'est une exploitation. Et penser, c'est exploiter les ressources de sa langue. Alors, effectivement, les ressources de la langue chinoise sont autres que celles de la langue européenne, de la grande langue indo-européenne. Mais il y a ressources des deux côtés. Et disons que le fait que la langue chinoise ne conjugue pas, effectivement, ça ne tranche pas entre des verbes qui soient des temps, eh bien, permet des effets d'infinitif, qui permettent effectivement de nous mettre dans cette continuité du processus qu'on vient d'évoquer. Mais encore une fois, chaque langue a ses ressources. Et il s'agit de puiser à ces ressources diverses pour justement essayer d'élaborer une langue qui puisse tirer parti. Moi, j'essaie d'écrire en français. En ouvrant la langue française à des ressources qu'elle a peut-être moins développées, de façon à la rendre peut-être plus descriptive, comme l'est la chinoise, de façon à la garder plus en prise avec l'expérience.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que la langue chinoise ouvre quand même plus à une possibilité d'interprétation ? Puisque ouvre à une très grande possibilité d'interprétation, puisqu'elle fonctionne, si je comprends bien ce que vous nous dites, sur une forme de juxtaposition, qui fait que le lien entre les deux, c'est le lecteur ou le locuteur qui le crée.
Oui.
Il y a une grande liberté, il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de chaînon entre les deux.
Disons qu'il y en a peut-être, ils ne sont pas marqués de la même façon. La langue européenne est syntaxique. Donc, elle obéit à des principes de construction qui se fait que quand nous parlons, nous écrivons, nous faisons des choix. Choix entre le passé ou le présent. Choix entre le singulier ou pluriel. Nous avons le choix entre le subjonctif et l'indicatif. Penser, dans la langue européenne, c'est donc opérer des choix et construire une phrase. Bon, la langue chinoise construit beaucoup moins. Donc, il y a d'autres ressources qui sont des ressources, effectivement, que le caractère parataxique juxtaposé de la langue chinoise autorise. Mais je crois que... Et donc, effectivement, le fait que la langue européenne construisant a en vue une distinction, une clarté, les fameuses idées claires et distinctes, n'est-ce pas, qui semblerait laisser moins prise ou place à l'interprétation. Mais, encore une fois, et le fait du côté chinois, par contre, que un certain flou de la construction, plutôt de non-construction, fait que l'interprétation par un texte devient essentielle par intertextualité. C'est-à-dire qu'il faut, pour être un lettré chinois, et connaître toutes les formulations précédentes pour pouvoir apprécier la nuance de celle du texte qu'on lit. Mais encore une fois, il s'agit de ressources diverses, mais qui sont toutes intelligibles. Et à mon sens, qu'il faut vraiment se garder de construire une Chine à part, qui serait dans une sorte de monologue comme ça, de sagesse, ne communiquant pas avec la raison.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Freissé. Tout un monde sur France Culture en direct du Salon Livre Paris. Nous sommes en compagnie de François Julien, philosophe, sinologue. François Julien, je me suis amusée, c'est un jeu de mots qu'on a déjà dû vous faire, attitrer cette émission, Les routes de soi, S-O-I. Et je voudrais maintenant qu'on en vienne à cet ouvrage que vous publiez, il est paru il y a 2 jours, Vivre en existant, une nouvelle éthique, plus précisément, parce que ça semble être quand même une synthèse de beaucoup de travaux. Vous avez publié 30 ouvrages à peu près, je ne les ai pas comptés. Ce
sont des chapitres.
Mais ça semble être une synthèse parce que, effectivement, dans ce dernier ouvrage, Vivre en existant, vous nous proposez quelque chose comme une sorte de protocole du bien vivre, du bien penser.
J'essaie d'élaborer une éthique. Une éthique est en même temps une stratégie. Vivre est difficile. Donc, essayez d'élaborer une stratégie pour essayer de déjouer cette difficulté de vivre. Et pour cela, j'essaie de sonder la ressource d'un verbe, qui est un verbe moderne, exister. Exister en entendant le latin existere, se tenir hors. Se tenir hors de quoi pour vivre? Bien, je dirais justement, c'est ce que j'essaie d'envisager dans les concepts successifs qui sont autant de chapitres de ce livre. Le concept de désadhérence, de résistance, de désenlisement, de basculement. Bref, essayez de voir comment, essayez de ne pas sombrer dans la clôture du monde. Mais comment s'en tenir hors? Sans que ce hors soit un hors métaphysique, sans que ce hors soit un hors d'au-delà. Et c'est là que je distinguerai ce que je trouve légitime qui est le métaphysique, et puis ce qui me paraît une perte du métaphysique qui est la métaphysique, la métaphysique rangeant de nouveau le hors dans du dans, le dans de l'au-delà, le dans de l'ailleurs, le dans de l'alibi. Donc il s'agit au fond d'envisager cette ressource d'un verbe moderne qui est entre vivre et être, être le grand verbe grec ouvrant la voie de l'ontologie, puis cet autre verbe laissé de côté mais récupéré par le religieux qui est vivre. Donc entre être et vivre, essayer d'élaborer une philosophie de l'existence qui soit une éthique. Et quand je dis éthique, évidemment, je pense à Spinoza, l'auteur de la grande éthique, pour essayer de voir comment, jusque chez Spinoza y compris, exister est un verbe qui n'a pas encore connu son Nestor. Et comment, après Spinoza, eh bien, la pensée moderne est en mesure de développer une nouvelle philosophie de l'existence.
Alors, en quoi la Chine vient à l'appui de cette démarche?
Elle vient, entre autres choses. C'est pas un livre, disons, qui met en vis-à-vis la Chine et l'Europe. Il s'agit de puiser aux ressources qui sont celles de ma culture. Ma culture y est encheminée d'un côté et de l'autre. Et la Chine m'intéresse à cet égard par sa capacité de description qui ne serait pas de construction. Car si l'on veut s'approcher de l'existence, il faut éviter de projeter une construction sur elle. Et la phrase européenne, on vient de le dire, construit. Donc il s'agit d'approcher l'existence dans son caractère phénoménal. Donc de ne pas décoller par les concepts de ce qui est la réalité même qui est en jeu. Alors la Chine m'intéresse par là, parce qu'elle nous rappelle cette importance de décrire et non pas de construire, c'est-à-dire de ne pas décoller de ce qui est l'effectif de l'expérience. Mais vous l'avez cité, Montaigne est dans le même souci, Rousseau dans les rêveries est dans le même souci. Donc il ne s'agit pas, si vous voulez, de construire une Chine qui serait une Chine comme ça de la sagesse face à un Occident qui en aurait tant besoin. Je sais que c'est facile, je sais que ça se vend bien, la leçon de sagesse exotique. Mais mon travail est vraiment fait contre cela.
Alors qu'est-ce que c'est véritablement exister? Est-ce que vous pouvez...
Le terme le dit, au départ, exister c'est un verbe qui vient de la théologie. Se tenir hors, c'est la créature qui se tient hors de Dieu, du Dieu créateur. Et ce verbe exister ensuite se détache de la théologie pour venir donner appui au verbe être. Parce que le verbe être est un verbe tout petit. Et donc pour donner une sorte de consistance, ainsi je décarte, je suis, j'existe, ego sum, ego existo. Mais progressivement le verbe exister se libère de cette attache au verbe être pour prendre un sens qui met en valeur cette capacité de se tenir hors. Hors de quoi? Hors de la condition de vie, de façon à faire apparaître cette capacité de se tenir hors de l'impliqué, hors du limité. Donc d'ouvrir le vivre comme possibilité. Et c'est ça que la pensée notamment existentielle fera apparaître, n'est-ce pas? Cette capacité d'ouvrir le fait de vivre au-delà de sa définition, de ce qui serait son essence, à sa capacité d'existence.
Vivre s'épuise, exister, acquis, atteint, l'est à jamais. Ce sont vos derniers mots dans ce livre. Vivre en existant. François Julien, merci d'avoir été avec nous pendant cette émission. Vivre en existant, une nouvelle éthique vient de paraître il y a 2 jours aux éditions Gallimard. Et presque en même temps, un autre ouvrage très précieux intitulé « Près d'elle ». Présence opaque, présence intime aux éditions Galilée. Et là, on est dans le registre plutôt de la relation amoureuse.
Merci.
Merci François Julien. Et puis dans la foulée, je vous signale un très joli petit livre qui vient de paraître, le livre des étonnements du sage, écrit par un certain Tao Li Fu, chez Chêne Éditeur, et l'auteur n'en est autre que Jean-Pierre Siméon, qui s'est mis dans la peau d'un malicieux sage chinois, avec une traduction à l'envers. Il a créé en quelque sorte des haïkus qu'il a fait traduire, donc par des Chinois, avec de très jolies calligraphies. Voilà, la Chine est inépuisable. On n'aura pas épuisé le sujet en 30 minutes en compagnie de François Julien, et ce, dans Tout un monde, le magazine des cultures. À la prise de son se trouvait Élise Le, à la sonorisation Stéphane Beaufils, réalisation
Vanessa Nadjar, Tout un monde chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Fraissé. Consultez notre site, vous allez trouver la bibliographie très riche de François Julien. Les émissions en direct de France Culture du Salon Livre Paris continuent avec vous, Vincent Charpentier. Je suis ravie de vous voir en chair et en os pour une fois.
Merci,
on se parle de studio à studio d'habitude.